je répète la question de Michael. Donc, elle se partage en fait en deux. Première partie, en général, quelle est la place des nations, donc des non-juifs, dans la Torah? Deuxièmement, quelle est la place des non-juifs dans le cas d'une guerre comme celle qu'a l'État d'Israël actuellement avec Gaza, où il y a donc le Hamas, mais aussi une population civile avec certainement parmi eux des justes parmi les nations. Bon, on va essayer avec l'aide de Dieu. Bah, à l'origine, il ne devait pas avoir de juifs et de goïm. À l'origine, Dieu a créé l'être humain. L'être humain a eu des enfants. L'être humain a péché. Et la descendance du premier homme devait réparer le péché du premier homme. Et Dieu a attendu. Dieu a attendu de voir qu'est-ce qui se passerait avec l'humanité. Donc le premier homme connaissait Dieu. Et il a transmis ça à son fils. Il a transmis à son petit-fils. Déjà à l'époque de son petit-fils, la génération de Enoch, alors ce matin la Torah, Azuchal Likrot Beshem Hashem. Alors, Huchal, Chulin. Alors on a commencé à appeler des choses profanes au nom de Dieu. Apparaît l'idolâtrie. Donc on s'éloigne de Dieu. Maïmonide, dans le premier chapitre des lois relatives à l'idolâtrie, explique comment c'est arrivé l'idolâtrie. Parce qu'il faut quand même le faire, prendre un verre et dire « Tu es mon Dieu ». Pour nous, ça a l'air un peu ridicule aujourd'hui. Mais ils avaient un argument qui était très très puissant. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit « Dieu, c'est comme un roi. On doit honorer le roi. Mais un roi, il n'y a pas que le roi. Il y a sa cour, il y a tous ses ministres. Le ministre vient maintenant me visiter dans ma ville, dans ma maison. Ben, je ne vais pas le prendre pour un nul... C'est le ministre du roi, donc je dois l'honorer. Donc il est normal qu'on honore les ministres du roi. Donc il est normal qu'on honore les ministres de Dieu. Ça veut dire que Dieu agit dans ce monde par le biais de ministres, par le biais d'organes. Les étoiles, la nature, il y a des forces. Dans la nature, il y a des forces dans l'astrologie. Donc voulant honorer Dieu, il est tout à fait légitime que j'honore aussi ses envoyés. Celui par qui la force divine m'est octroyée. D'accord ? On va commencer maintenant à honorer la divinité, je ne sais pas moi, du soleil. Parce que, sauf, c'est sympa de se bronzer au soleil. Grâce au soleil, le monde vit. Donc c'est certainement un envoyé de Dieu. Il y a la lune aussi. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a tout ce que tu veux. Bon. Bien sûr, il y a Dieu. Peu à peu, ils ont commencé à oublier Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Il n'est pas très présent. On voit beaucoup ses ministres. Ah, le roi, il est bon. Peu à peu, les gens commencent à oublier Dieu. Ils ont commencé à ne plus servir que les ministres. Peu à peu, sont venus des prophètes, des prêtres de ces étoiles et de ces soleils, et qui ont commencé à... Comme tous les gens qui ont du pouvoir, ont commencé à raconter des histoires. Ce Dieu-là s'est dévoilé en moi en rêve et m'a dit, construisez-moi un temple sur l'endroit, la colline Intel. Bon, évidemment, à côté du temple, il y aura un petit bureau aussi, avec une maison, avec pour le prêtre et sa famille. Et après, allez-moi des sacrifices, ainsi et ainsi. Et après, ils ont commencé, les prophètes, à complètement occulter le nom de Dieu. On ne parle plus que des idoles, et on invente des services sacerdotaux de l'idolâtrie. L'humanité va aller d'échec en échec. C'est marqué dans Chazal, c'est pas marqué clairement dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash, qu'à la civilisation de Enoch, à la génération de Enoch, Dieu a déjà inondé un tiers du monde. Première fois où, déjà, réaction divine. Bon, Dieu attend. 10 générations après, premier homme, déluge. Pourquoi ? Parce que c'était la catastrophe totale. Le vol, la débauche, l'idolâtrie. Donc on recommence à zéro. Et là, ça ne va pas mieux. Dieu attend, encore 10 générations. Au bout des générations, qu'est-ce qui se passe ? Tour de Babel. On construit une tour pour se battre contre la divinité. Après, Sodome et Gomorre, comme leur nom l'indique, d'accord. On dit ce nom, ça veut tout dire. On arrive en l'an 1948. Qu'est-ce qui va se passer en 1948 dans l'histoire juive? L'essence d'Abraham Avinu. Aujourd'hui, classement l'État d'Israël. Non. L'État d'Israël s'est créé en 5708. D'accord, faut pas confondre. 1948, la création du monde, naissance d'Abraham Avinu. On arrive à l'an 2000, donc 2000 ans d'histoire, et on fait le bilan. On sait que l'histoire, elle a trois tranches de 2000 ans, 6000 ans d'histoire. On est déjà un tiers de l'histoire. Et Dieu voit que l'humanité n'a pas réussi à réaliser le job nécessaire. Ramener toutes ces étincelles, lorsque le premier homme il a péché, il a fait tomber toute la divinité, toutes les parties de la divinité, très bas. Il fallait remonter tout cela. Alors, en descendant, vouloir remonter, ils sont encore plus enfoncés. On va de déchéance en déchéance. Et là, un seul, et comme dit Maïmonide, il est seul, parmi des parents idiots, parmi des gens idiots, et réfléchis. Mais comment ça se fait que ça tourne? Si ça tourne, il y a un effet, donc il y a une cause à l'effet. Alors, qui est la cause à l'effet? Il faut une cause qui soit infinie, vu que ça tourne de façon infinie. Et il commence à parler avec les gens. Et il monte un mouvement. Le mouvement du Dieu 1. Et il y a des histoires, il se met en prison. Ah, oh, vraiment, c'est comme le réactionnaire et le KGB. Le roi le met en prison. Et à la fin, Avraham Avinu, comme on l'appelle, devient le leader du mouvement monothéiste. Et Dieu l'appelait Ohavi, mon amant, je t'aime. Il va faire tchouva lui et sa femme faisait faire tchouva aux femmes, lui aux hommes, pas comme aujourd'hui on part mélanger mix, même à l'époque ça n'existe pas un truc pareil. Et 40 000 balles de tchouva. Dieu propose. C'est quoi il propose? Il y avait dans le monde des perches tendues aux autres nations, de suivre ce mouvement. Soyez monothéistes, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? D'abord, au niveau sexuel, il faut être rangé. Fidèle à sa femme, pas tromper sa femme. Avec la lune, on peut faire ce qu'on veut. Avec le soleil, on peut faire ce qu'on veut. Ils ne sont pas aussi enquiquinants. On ne veut pas ça. Bon, un autre peuple, on lui dit, écoute, suis le mouvement monothéiste. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Je lui ai dit, écoute, il faut être très réglo au niveau de l'argent. On vole jamais. Jamais, honnête. La vente, ça n'existe pas, la vente. Le produit, tu dis ce qu'il a, les défauts, les qualités. Mais c'est fini, il n'y a plus de business. Vous avez tué le... C'est terminé, il n'y a plus de marché. C'est pas possible, vos trucs, c'est un truc... Il faut être sur terre, il faut être réaliste. Donc il y aura des perches tendues. Venez opter pour la voie difficile de la vérité. Dans la grande majorité, les peuples préféreront la facilité permettant d'être pas si rigoureux au niveau de la vérité. Ah, ça va. Ah, là. Le juste milieu, comme ils disent. Maïmonide a dit le juste milieu. Tous les gens qui sont des religieux, un pied là, soi-disant religieux, d'accord, moitié goy, moitié juif, ils disent, moi, je suis Maïmonide. La voie du milieu. Mais Maïmonide n'a jamais dit de faire la voie du milieu entre la vérité et le mensonge, parce que presque vrai, c'est faux. Il a dit, au niveau des midotes, du caractère, il ne faut pas être trop généreux, tout dilapidé, trop avare, la voie du milieu. Pas trop égoïste et pas trop altruiste. La voie du milieu. Là, sur les midotes, sur les traits de caractère, mais pas au niveau de la vérité. Tu prends la Maïmonide, il a écrit tout un... Beaucoup de gens connaissent le Guide des Égarés, les bouquins de psychologie, les 8 chapitres de Maïmonide, mais son œuvre Maïmonide, s'il est quelqu'un dans le monde juif, c'est Mishneh Torah. C'est donc qu'il a synthétisé toutes les lois de la Torah. D'après toi, la voie du milieu, il faut prendre la moitié, puis zoup, on jette. Maïmonide, c'est la loi. Donc eux aussi, ils ont dit, moitié-moitié. J'ai dit, ok, comme vous voulez. Abraham et sa descendance, pas toute sa descendance. Parce que d'Abraham, il y aura une autre partie qui va sortir, Ishmaël, qui ne tiendra pas le coup. Esav, qui lui-même dira, je veux pas de ça, ça me casse les pieds. Il ne reste plus que Yaakov. Abraham, il ne sera que Yaakov. Yaakov est surnommé Israël, et de là descend la descendance de Israël. Eux sont dans l'unité spéciale de faire le job que Dieu décide, que Dieu demande au monde de faire. À la place de tout le monde. À la place de tout le monde. 613 lois. Difficiles. Il y en a qui sont du domaine carrément inhumain. Ne pas haïr. Quelqu'un te flanque une tarte, il ne faut pas le haïr. Bon, il y en a qui disent qu'il faut donner l'autre joue. D'accord. En plus, ça vient de chez nous, d'accord, c'est marqué dans le prophète. On ne dit pas forcément donner l'autre joue. D'accord. Celui qui vient te tuer, lève-toi, tue-le d'abord. Ne pas se venger. Des tas de lois extrêmement difficiles. Au niveau divin. Durant l'histoire, la partie du peuple juif qui ne veut pas de cela, qui ne veut pas être dans cette unité, eh bien, elle quitte. Nous sommes, somme toute, après 3000 ans, que, on va dire 13, 14, allez, pour être gentil, 15 millions. Dans le bouquin d'histoire, c'est marqué qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%, il y a 2000 ans. Donc, au prorata, on aurait dû être aujourd'hui, qui fait un peu de maths là, à qui va? On est 6,7 milliards aujourd'hui, comme ça Wikipédia, ils ont dit 6,7 milliards. Fais-moi 8% de 6,7 milliards, plus ou moins 500 millions. Combien il manque? 485 millions ont disparu. On aurait dû être 500 millions. 500 millions. On est 15 millions, petit peuple. Donc ils sont passés où? C'est pas tous qu'ils ont été massacrés. La majorité s'est assimilée. Et c'est trop dur pour nous. Nous, on aime bien le moitié-moitié. Ok, fais moitié-moitié. Ton fils sera moitié-moitié de la moitié. Moi, ton arrivé. Et après, il n'y a plus rien. D'accord? Dans les peuples, il y en a qui voulaient ça, ce programme. La majorité a dit non, mais il y en a qui voulaient oui. Ce sont les âmes des convertis. C'est eux qui reçoivent une certaine âme qui revient un jour dans un corps de non-juif et il a une pulsion irrationnelle. Il ne sait pas pourquoi. Il vient de perpète les oies, des fois, des endroits, je ne sais pas où. Et là, il ne comprend pas. Comme ça, il voit des juifs, il est attiré comme ça. Bizarre. Pourquoi? C'est pas rationnel. Parce que ça provient de l'âme. C'est une chose complètement irrationnelle. Il ne peut pas expliquer lui-même. Ça vient de l'âme, il y a une pulsion d'attirance. Parce qu'à la base, il faisait partie. Il a attrapé la perche qui était tendue.
Et les 40 000 convertis
ont tous disparu de la nature. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu.
C'est qu'il a mal fait son job.
Il a fait son job sur place, il a bien fait. Un homme 40 000, c'est pas mal. Il a fait son job, ça n'a pas continué. Sans Torah, ça ne tient pas. Ça n'a pas tenu. Il se peut que aussi, peut-être ce sont les... D'ailleurs, on dit qu'un converti s'appelle les enfants d'Avram et Sarah. Ben Avram Avinu, Ben Sarah Imenu. L'Aktouba, on met Ben Avram Avinu, Ben Sarah Imenu. C'est ça son vrai nom. À quelque part, il est le fils spirituel, parce que peut-être une de ses âmes qui a fait tchouva à l'époque d'Avram Avinu et qui revient maintenant pour devenir vraiment juif. Parce qu'il n'est pas descendant d'Avram, vraiment. Il y a d'autres âmes des convertis qui sont... C'est marqué dans les bouquins hein, que Avram Avinu et Sarah... C'était stérile, enfin, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, Avraham Avinu, il avait 86 ans, ce que Shemaïa est né. Pas très jeune. Il a 99 ans, lorsqu'on lui annonce que Yitzhak va naître. Il est à l'âge de 100 ans. Bon, en attendant, Avraham et Sarah, qui sont mariés jeunes, ils ont eu des relations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans les bouquins de mystiques juifs qu'ils ont mis au monde les âmes du converti. Parce que chaque relation, elle crée quelque chose. Chaque relation crée quelque chose. Mais des fois, ça crée dans la matière, des fois, ça crée que dans le spirituel. C'est ce qu'on appelle vraiment, ce sont des enfants d'Abraham, et Sarah. Ok.
Vous entendez quoi par relation?
Je t'expliquerai un jour.
La veille de
ah, c'est normal. C'est normal quoi. Ok. Donc on arrive à quoi? On arrive en fait à deux groupes. Le groupe qui fait le job difficile et l'autre groupe. L'autre groupe, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il voit rien faire? Absolument pas. Tout le monde a droit à la vérité. Tout le monde a droit à connaître le Dieu créateur du monde. Les non-juifs ont l'obligation, d'après la Torah, de pratiquer cette loi, qu'on appelle cette loi Noachid. Et s'ils les pratiquent dans l'optique suivante, et exclusivement dans l'optique suivante, que ces lois ont été ordonnées dans le cadre de la Torah, données par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, par le Dieu créateur du monde, alors ils n'ont pas au monde futur. Mais dans une moindre mesure. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont crevés à faire 613, et d'autres qui sont pépères à faire 7. Ok, donc chacun en fonction de... Donc il y a certainement parmi les non-juifs, qu'on appelle des chassidés ou motaolam, des justes parmi les peuples. Et il n'y a aucun problème, ils n'ont pas olam abba. Ça c'est pour ta question au niveau qu'est-ce que c'est le rôle des nations. Maintenant, il est certain qu'il y a parmi les nations aussi autre chose. Parmi les nations, il y a, et je ne sais pas dans quel pourcentage, il semblerait que c'est quand même pas mal, il y a les véhicules du mal. Ça veut dire que quelqu'un maintenant qui choisit le mal devient l'instrument du mal. Et plus il fait du mal, plus il attire sur lui une envie de faire le mal, et plus il a envie de faire le mal, plus il en fait, plus il en fait, plus il attire, plus on fait une chose, plus on va dans, plus on s'enfonce. Idem aussi dans la sainteté, puisque c'est marqué, sera mitzvah mitzvah, le mérite d'une mitzvah, c'est envie de faire une autre mitzvah encore. L'appétit vient en mangeant. C'est valable dans tout. Quelqu'un, il a donné la tzedaka, il commence à bien aimer donner la tzedaka.
Si le Yetzirah présent, même chez les juifs, est-ce qu'un juif peut devenir aussi le véhicule du mal si le Yetzirah...
Absolument. Absolument. C'est marqué Marsaïch, Omachivaïch, Memer Yetzéou. Tes destructeurs et tes anéantisseurs sortiront de tes entrailles. Les pires, des fois, les pires persécuteurs du peuple juif étaient des juifs eux-mêmes. Les capots, les inquisiteurs, beaucoup, bien sûr. Un juif, il a un grand potentiel, donc il peut faire beaucoup de mal. Et le Erev Rav, je n'ai pas fait un cours entier sur le Erev Rav, mais il y a une partie des âmes juives qui s'appelle Erev Rav, dont le but, c'est faire beaucoup de mal à Israël. C'est vraiment le but. Ils ont la haine d'Israël, c'est terrible. Une haine.
Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a un juif parmi les nations, des goyim qui avaient sauvé des juifs. Peut-être qu'ils ne faisaient pas les armes de l'ennemi, les sacs de l'ennemi, dans le cas. Mais est-ce que c'est quand même des juifs qui sont armés ?
C'est certain que ces gens-là ont un très grand mérite. En ce qu'ils ont fait, et j'imagine que pour cela ils ont part à Olam Haba, dans le monde futur, c'est clair. Dans quelle mesure, qui quoi, ça c'est les dieux qui jugent. Nous, on sait, sur personne, ni juif, ni goy, on peut juger lui oui, lui non. Qui sommes-nous? On n'a rien du tout. Il y a tellement de paramètres, tellement d'inconnus. Mais certainement, quelqu'un qui s'est mis en danger, et dans la Seconde Guerre mondiale, pour sauver des juifs, il fallait se mettre en danger, c'est certain qu'il a un très, 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 très grand mérite. C'est évident. Donc il y a possibilité maintenant aussi de devenir véhicule du mal. Et il y a du mal dans le monde. Nous sommes dans le royaume du mal. Le monde, c'est le royaume du mal. Et précisément notre génération. On est le 20e siècle, d'accord. C'est les derniers soubresauts du mal avant que le bien arrive, où le mal va être éradiqué. Et là, il donne toute la sauce, tout ce qu'il peut. Donc c'est la Shoah, c'est Internet, c'est tout ce que tu peux imaginer de plus affreux, c'est notre génération. Avant, c'est gentil. Même si des gens cruels, ok, alors des flèches, on va. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Alors maintenant, c'était la première question. Deuxième question, dans le cadre particulier du conflit maintenant de la guerre à Gaza. Il y a 10 jours. J'ai déjeuné avec le frère de mon meilleur ami, qui travaille à l'ONU. Et son job, c'est donc qu'il travaille dans le bureau des réfugiés, et il interviewe les réfugiés, qui viennent de toutes sortes de pays, pour voir s'ils ont droit à avoir un droit d'asile ou pas. Il me raconte donc qu'ils ont reçu des gens, des fois de Gaza. Et il s'avère qu'à Gaza, donc, il y a une population qui est sous terreur du régime Hamas. Alors, parmi les Gazaouis, tu en as des pro-Hamas, des militants, des militaires, tu en as des neutres, et tu en as des anti qui n'osent pas dire quelque chose, parce que s'ils vont dire quelque chose, ils vont se faire ratatiner. Donc, il est clair qu'il n'y a aucune... légitimité à aller et tuer, faire souffrir quelqu'un qui ne nous en veut pas. Maintenant, il faut savoir quel pourcentage, qui, quoi, comment, on ne peut pas savoir. Israël, je pense. C'est vrai que je suis du côté israélien, c'est normal. Mais je pense que si j'essaie d'être objectif, je ne pense pas que dans l'histoire, si quelqu'un entend ça sur Internet, je vais me faire ratatiner, mais c'est la vérité. Je ne pense pas que dans l'histoire, il y a une armée qui fait tellement attention d'essayer de toucher que les militaires et pas les civils. Pour deux raisons. Oui, par humanisme, parce qu'on n'a pas envie de toucher bêtement des enfants, on n'a pas la haine. Deuxièmement, c'est vrai aussi pour l'opinion publique. Parce que les Palestiniens font de cela leur pain quotidien. Le vrai problème, c'est que, je vais me faire ratatiner, on est trop bon et trop juste. Pas trop, on est très bon et très juste. Et c'est une chose que les peuples n'arrivent pas à comprendre. Alors, ils en profitent pour nous tomber dessus, parce que ça, c'est le point sensible. On veut être droit. On veut être droit. Et on est tellement conditionné à être en quelque part attention à ce qu'on va dire sur nous, et soyons tellement droits, qu'on ne se rend pas compte comment les autres se conduisent. Comme j'ai dit à quelqu'un dans mon bureau aujourd'hui, imaginons quelqu'un qui habite Londres. Imaginons que l'Irlande envoie tous les jours 10 roquettes sur l'Angleterre pendant 7-8 ans. Bon, Baruch HaShem pour les Anglais, thanks God, d'accord, et il n'y a pas trop de tués, par miracle. Combien de temps l'Angleterre, elle résiste avant de faire un parachutage de l'infanterie en Irlande? Combien de temps? 2 jours? C'est 7 ans qu'on attend. Les gens sont habitués, sirène, on descend, sirène, je comprends pas. T'as une armée. Mais attends, c'est pas que ça. Parce que Gaza, qui leur donne les vivres, qui leur donne l'électricité, qui leur donne le téléphone, qui leur donne tout, presque, beaucoup, beaucoup, l'État d'Israël. Donc c'est un truc de... Maintenant, en pleine guerre, on leur fait passer des vivres, des médicaments. On a déjà vu ça, une guerre pareille, quelque part. Où? Donnez-moi un exemple. Maintenant, j'ai droit de sauver ma peau. C'est ça qui enquiquine tout le monde dans le monde. Que j'ai droit à sauver ma peau, et je le fais par la force. Ça, c'est nouveau et inconnu. Et pour les gens qui ont la haine du peuple juif, et il y en a hélas beaucoup, c'est insoutenable. De plus, le fait qu'ils puissent nous accuser de nous comporter, entre guillemets, comme des nazis avec les petits-enfants palestiniens, ça leur permet de régler un très gros problème. La culpabilité de leur non-assistance à personne en danger et de même non-protestation durant la Shoah. Quelqu'un m'a dit 95% des Français étaient collabos durant la Shoah. Je ne sais pas si c'est vrai, mais combien? Bien 50%? C'est une accusation terrible. Ils le savent. Et les articles et les films sur la Shoah, ça les culpabilise, ça leur met en question. Quelle aubaine! Les Juifs eux-mêmes font ça. Ah ben voilà! Eh ben, ils ne sont pas mieux que moi. Bande de... C'est évident. C'est évident. Maintenant, les Palestiniens, on m'a dit ce Shabbat, Israël a bombardé une mosquée. Et qu'est-ce qu'il y avait sous la mosquée? Un grenier de missiles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la mosquée, les gens qui font partir les missiles. Alors on bombarde la mosquée. Le monde entier éclate. Qu'est-ce qu'on doit faire? Trouver les solutions. On les a avertis. On m'a dit, tout ce que je dis maintenant, c'est tout ce qu'on m'a dit. On m'a dit que chaque fois qu'Israël bombarde, ils préviennent un quart d'heure avant. Les civils partaient. On a vu une guerre pareille une fois dans l'histoire. Et on m'a dit aussi qu'il y a eu deux activistes, de grands chefs du Hamas, on les a avertis, et a monté sur le toit, avec sa femme et ses enfants, sur le toit de sa maison pour dire « je ne partirai pas ». Pour qu'ils avaient, on voyait bien quand même. Les Israéliens, ils ont été fins, ils ont tiré de l'autre côté, il y a une petite bombe comme ça de l'autre côté du toit. Ils ont tous été terrorisés, ils sont partis, pour pouvoir bombarder tranquillement. T'imagines ça, les précautions avec pincettes comme on va. Tu veux crever, crève. Non ? Je t'avertis, attention, je vais sous ta maison. T'es un type qui envoie des roquettes toute la journée, t'es un assassin. Je prends encore le luxe de... Et encore ! On n'a jamais vu ça, c'est du jamais vu. Et je crois que c'est ça qui embête nos ennemis. Qu'on est trop propre.
Est-ce qu'on n'est pas propre parce que justement on sait que... On n'inverse pas la cause, et qu'ils vont parler dessus, donc on se...
J'ai dit, il y a les deux raisons. Il y a l'opinion publique aussi, c'est vrai.
L'opinion publique, peut-être qu'on raserait tout au napalm, mais ce serait bien.
Je ne pense pas qu'on pourrait faire une chose pareille. Assad, le père, il y avait une ville qui était un peu... Il y avait des rumeurs comme ça, un peu contre le roi, contre Assad. Il a amené l'armée, il a mis les tanks autour, exercice de tir. Ils ont tiré. Ils ont laissé une ville détruite. Pas de discussion. Quelqu'un a un jour accusé Assad d'être un criminel de guerre? Jamais. C'est comme ça qu'on fait. Saddam Hussein. C'est un copain réfugié irakien qui m'a raconté. Il y a une ville, comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom de la ville. Environ 20 000 habitants. Tous les officiers de l'armée. Parmi les officiers de l'armée, il y avait un peu de mécontentement. Quelques-uns n'étaient pas contents. Saddam Hussein a dit, aujourd'hui, jour de congé. Jour de congé, tout le monde rentre à la maison, dans leur ville. Ils amènent l'aviation, les bombardiers, ils ont bombardé toute la ville, terminé. Là, tout le monde est d'accord, après, il n'y a aucun problème. Et tous les pays qui n'ont pas fait comme ça, en Orient, eh ben, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Tu prends du Maroc jusqu'au Pakistan, un pays où tu n'as pas un despote qui les tient comme ça, c'est l'anarchie, parce que c'est ce qu'ils comprennent. Regarde. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tous ces c'est pas des démocraties. T'as une démocratie, une seule, dans ces pays là-bas? Pas que je sache, hein. Aidez-moi au niveau... Non ouais. Nous, on fait un pays, comme ça, tac, démocratie. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes qu'est-ce qu'on leur dit? Vous êtes une bande de crétins. C'est les meilleurs d'eux, hors d'eux. Alors pour nous accuser que c'est nous maintenant les sanguinaires, les despotes. Alors c'est vrai que l'opinion publique est très importante, c'est vrai. Je dis, il n'y a pas que ça, c'est certain que... Elman, on est Ahman, malgré nous. On est Ahman. Simone Peres a dit, le problème qu'on a avec les Palestiniens, c'est qu'on a plus pitié de leurs enfants qu'eux ont pitié de leurs enfants. Parce qu'à Jenin, ils ont envoyé leurs petits-enfants avec des bombes humaines. Tu as un petit enfant qui court, tu vas lui tirer dessus. Le père, il s'en fout de faire sauter son fils. Nous, on ne peut pas tirer. On ne peut pas. C'est difficile. Alors, on saute. Alors, de nouveau, la différenciation, elle est très claire. Est-ce que la personne, c'est un ennemi de la vérité, un ennemi de Dieu, un ennemi d'Israël? Vraiment? Ah, si oui, il appelle un rachat. C'est un rachat. C'est marqué « Ba'avod Rechaim Rina ». Lorsqu'il y a la perte des Rechaim, il y a de la joie. C'est quelque part, un ennemi de Dieu a disparu. Et ça, on peut être et on doit être en joie. Pourquoi pas? Si ce n'est pas le cas, alors, comment ça, c'est marqué que Dieu est la miséricorde de toute sa création. Et nous, on doit avoir miséricorde aussi. On n'a pas le droit de faire du mal à un petit poisson. Plus forte raison, un être humain. En 1942, à Leipzig, une des villes importantes en Allemagne, en première page du journal, il y a eu un article scandalisé, scandale à Leipzig. Un chien a été écrasé par une voiture. Il n'est pas mort sur le coup. Pendant 2 heures, il a hurlé avant que quelqu'un voulait bien venir l'achever. Pendant 2 heures, un chien, en 1942, en Allemagne, hurle. Et personne ne s'en occupe. Où est l'amour des créatures? Édifiant. Chez nous, Rachamav al-Kolmasav, on doit miséricorde de tout. Toutes les créations. Mais quelqu'un, un scorpion maintenant, une mère scorpion, avec des petits scorpions innocents qu'elle porte sur son dos, se rapproche du petit bébé qui est dans le berceau. Il faut avoir miséricorde. Ce sont des petits scorpions qui ne connaissent rien. Ils viennent de naître aujourd'hui. Ils disent « Mamie, mamie ». Eh bien, on prend quelque chose et paf, on les abat, terminé. Ils mettent en danger le bébé. Quelqu'un qui vient me tuer, qu'il ait une bonne intention, je ne sais pas quoi, HKM le orgo, lève-toi d'abord pour le tuer, ta vie passe avant. Et très souvent, ces gens-là sont vraiment les véhicules du mal. Le mal pour le mal. Hamas, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement. Ce n'est même pas un État. C'est pas une direction d'un État. C'est un mouvement terroriste qui prend l'argent qu'on leur envoie, qui met dans les poches, comme c'est connu, d'accord, Arafat et tout, and co. Qui profite du peuple qui vit dans des conditions misérables pour pouvoir accuser après Israël et envoyer les missiles. On aurait pu avoir à Gaza un paradis sur terre, une région touristique. C'est une très belle région. J'étais en vacances souvent là-bas, c'est très beau. Une région touristique, avec un échange avec Israël. Ils auraient pu avoir vraiment, ils auraient pu avoir la Riviera, la côte d'Azur méditerranéenne. Israël, l'État, le monde entier les aide avec des milliards. L'État d'Israël les aide. Ils n'ont pas d'impôts à payer comme nous on paye. Ils ont l'électricité, ils ont tout cela. Allez-y, faites. Non. Alors, qui sont les pauvres? Les miskinim, les pauvres, ouais, évidemment, il y en a. Lotisna et achicha. Non. Lotisna et achicha bevavra. Tu n'haïras pas ton cœur, ton frère dans ton cœur. Par contre, il est marqué dans le Tehilim, et mesanecha Hashem esna. Ceux qui ont la haine de toi, Dieu, je les hais. Mitzvah de haïr ceux qui ont la haine de Dieu. Donc, nous avons le même critère de définition. Chacun maintenant, qu'il soit juif ou pas, peu importe, est-ce qu'il est du côté du bien ou du mal? Neutre, ça va, pour nous c'est bien. Mais quand c'est un militant du mal.
Tous les Ishmaélites, c'est ça?
Pas tous. J'ai des Ishmaélites qui m'écrivent sur le site, qui nous aiment beaucoup, Allah, Salam, machin, tout ça. Ok, voilà, bon, des gentils Ishmaélites. Ça existe, pourquoi pas. Cette dame qui avait parlé en Amérique, Sultana, je ne sais plus comment elle s'appelait.
Wafa Sultan.
Qui a dit, oh, il leur a envoyé en pleine figure, vous êtes une bande de terroristes et tout, c'est que le mal vous allez faire. Regardez un peuple, sans rien, avec la science, avec la connaissance, ils ont amené de bien dans le monde. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans le monde? Que destruction. Et comme ça, paf. Il a du courage. Elle a son Khalkolamaba, gros, comme ça, Baruch Hashem, c'est clair. Baruch Adonai, l'homme, amen.